sur 103,5.
Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de publier de nouvelles instructions qui réglementent le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Qu'est-ce qui a motivé l'autorité de tutelle à publier ce nouveau règlement? Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau parchemin universitaire? Des détails tout à l'heure avec notre invité qui est déjà avec moi dans ce studio, c'est le professeur Cessep. Il est secrétaire à la commission permanente des études au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci de vous être déplacé et d'être venu ici dans ce studio de Radio Capi pour répondre aux préoccupations des auditeurs. Nous vous retrouvons tout à l'heure, hein, parce que suivez bien l'entretien que je vais avoir avec Jody Kachama, que je vais retrouver avant vous, qui est avec moi également dans ce studio. Bonjour Jody.
Bonjour Nicole.
Jody, la première question que je vous pose est celle de savoir qu'est-ce qui a amené le ministère à prendre, je dirais, de nouvelles dispositions académiques.
Vous savez, Nicole, depuis 1976, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire a publié une série de textes réglementaires pour mieux organiser les évaluations dans nos universités et instituts supérieurs. D'après le ministère, certaines dispositions de ces textes ne sont plus adaptées à la situation actuelle, d'où la nécessité de les harmoniser, les actualiser, les consigner dans une instruction unique pour plus d'efficacité.
Bon, je ne sais pas si les auditeurs comprennent, surtout les étudiants comprennent en fait l'efficacité de ces nouvelles dispositions. Mais sinon, je dis, qu'est-ce qui est dit exactement dans ce nouveau règlement académique?
Dans l'ensemble, ce nouveau règlement rappelle les dispositions antérieures sur l'organisation des épreuves pendant une année d'études. Un établissement doit par exemple organiser au moins deux interrogations au cours de l'année académique, des travaux pratiques, des examens, première et deuxième session, le stage et la pratique professionnelle lorsqu'ils sont prévus au programme de l'année, le travail de fin de cycle pour les étudiants de dernière année du premier cycle ou le mémoire pour ceux du deuxième cycle.
Oui, tout cela a toujours été fait, je crois, comme il se doit. Hein. Ça a toujours été fait ainsi, donc il n'y a rien de nouveau.
Il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr que tout cela a toujours été fait. On a rappelé aussi les dispositions sur la composition des jurys, la publication des résultats, la fraude, les sanctions qui sont prévues, la gestion des copies, des TP, interro-examen. On note aussi des dispositions sur les recours, les épreuves du doctorat et de l'agrégation de l'enseignement supérieur à l'université. Bref, donc c'est un texte qui a au moins 100 articles, dont je vous épargne...
D'une trentaine de pages, hein. Mais je dis, parce que tous les auditeurs nous suivent partout au Congo, et surtout les étudiants, hein, parce que les étudiants, il y en a beaucoup ici en RDC, et j'imagine que beaucoup ne vont pas tarder à réagir et appeler au 081-890-63-94. Je dis, quelles sont alors les innovations? Parce qu'on ne voit pas très clair par rapport aux textes précédents qui ont réglementé le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire.
Les innovations sont les suivantes. D'abord, il faut retenir que les matières sont réparties par catégorie. Nous avons les matières de formation professionnelle ou des spécialisations qui préparent l'étudiant à l'exercice futur de sa profession. Deuxièmement, nous avons les matières d'appui à la formation professionnelle ou celles qui visent à donner au candidat une information scientifique nécessaire à l'exercice futur de sa profession. Et puis, en troisième lieu, nous avons les formations générales ou celles qui visent à lui donner des habiletés ou des aptitudes d'ordre général. Alors, pour les cours de formation professionnelle de la première catégorie, le règlement prévoit qu'aucun étudiant ne peut passer des classes avec un échec grave, quel que soit son pourcentage.
Oui.
Donc, vous pouvez avoir 70%, mais avec un échec grave dans cette première catégorie, vous ne pouvez pas passer des classes. Alors, une autre nouveauté, c'est l'instauration du système de péréquation.
Le système de péréquation, ça étonne plus d'un, surtout les étudiants qui nous suivent maintenant partout au Congo. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce système de péréquation?
Bon, partons d'un exemple.
Oui.
Vous avez 70% avec un échec grave dans un cours de formation professionnelle. Le jury peut prélever 2 points dans un autre cours de même catégorie et les transférer dans celui où vous avez un échec grave. C'est ça la péréquation, c'est-à-dire le transfert d'un point ou 2 points au maximum d'un cours à un autre de même pondération dans le but d'alléger un échec grave ou de supprimer un échec léger. Cette opération ne peut être effectuée qu'une seule fois.
Ok, donc finalement, les étudiants peuvent passer avec un échec grave si on tient compte de ce système de péréquation.
Non, vous ne pouvez pas passer avec un échec grave.
Oui, mais si on tient compte du système de péréquation, on peut prendre 2 points dans une branche où vous avez bien travaillé et les mettre.
Et on mettre
Oui.
là, dans le cours où vous avez un échec grave,
Tout
et
à
puis
fait.
l'échec n'est plus là, donc où est allégé, alors à ce moment-là,
OK.
vous pouvez passer.
Voilà, c'est plus clair comme ça. Réagissez, hein, vous qui nous suivez partout au Congo. Appelez-nous au 081 890 63 94. Notre invité est déjà dans ce studio avec nous. Il nous suit, il vous suit et il serait, je crois, bien disposé à répondre à vos questions. Je dis, on va évoluer. Vous venez de parler du cas des matières de formation professionnelle. Alors, qu'en est-il des matières d'appui à la formation professionnelle et les matières de formation générale?
Pour ces deux autres catégories de cours, ne peut passer des classes que l'étudiant qui a obtenu la moyenne générale entre 50 et 54,99% avec un échec léger. Donc, deuxièmement, si vous avez entre 55% et 59% avec deux échecs légers, vous pouvez passer des classes. Et puis, celui qui a 60% avec trois échecs légers passe des classes. Donc, dans tous les cas, on ne permet pas à un étudiant de passer des classes avec un échec grave.
Oui,
Ouais.
mais bon, je ne sais pas si les étudiants sont d'accord avec moi, mais j'ai comme l'impression que ça a toujours été ainsi. On en discutera encore avec le professeur Césep.
Oui.
Nous avons appris également que cette nouvelle réglementation, je dis, supprime les appellations telles que à journée totale et à journée partielle. Est-ce vrai?
Bien sûr, on ne parlera plus de ces deux termes. On
Oui.
dira tout simplement que l'étudiant est ajourné. Tout étudiant qui obtient 40% est ajourné. Néanmoins, lors de la deuxième session, il ne va plus reprendre les matières dans lesquelles il a obtenu au moins 10 sur 20.
Ok, voilà une nouveauté, hein, tout de même. Mais comment les chefs d'établissement réagissent par rapport à cette nouvelle disposition?
Bon, par rapport à cette nouvelle disposition, beaucoup n'ont pas apprécié. C'est le cas du professeur Kambay Boachi, secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale.
Je veux peut-être dire, sans blesser les oreilles sensibles, ce règlement est fait dans le cas de l'allègement des peines. Parce que, à une certaine époque, où on a renforcé, l'étudiant qui n'avait pas 10 sur 20 reprenait la matière. Pardon, qui n'avait pas 12 sur 20 reprenait la matière. On a allégé les conditions. Non. Nous devons pousser nos étudiants à faire d'efforts. Et la seule façon de montrer qu'on a fait l'effort, c'est d'étudier. Étudier, étudier, consacrer son temps aux études, aux livres, non pas à la musique.
Oui, là, on a suivi le secrétaire général académique de l'Université pédagogique nationale, Kambay Boacha. Tout de même, je dis, ces arguments sont fondés. Hein. Vous n'avez pas cette impression-là?
Ben, ça, c'est d'après lui, c'est son
D'après
point de
lui,
vue, ouais.
oui. Certainement que le professeur Césep aura quelque chose à dire là-dessus.
Là-dessus, bien sûr.
Mais avant qu'on puisse accorder également la parole au professeur Césep, je dis, les étudiants eux-mêmes apprécient-ils cette nouvelle disposition à journée partielle qui n'existe plus, à journée totale? On ne tient plus compte de cela?
Ben, beaucoup ont beaucoup plus réagi sur cette nouvelle disposition qui dit que l'étudiant qui a 40%
Oui.
et qui doit revenir en deuxième session, il ne reprend pas tous les cours. Seulement, il ne reprend pas tous les cours.
Oui.
Par exemple, les cours dans lesquels il a obtenu 10 sur 20, il ne peut pas les reprendre. Vous comprenez? Alors, voici quelques réactions des étudiants à qui nous avons donné la parole.
Bon, moi, personnellement, j'entends parler. Je n'ai pas encore vu les textes qui les disent. J'ai des amis qui les disent. Hier, j'étais au département, il y a des rumeurs qui circulent dans ce sens-là. À ce sujet, on m'a dit que quand on est athée, ou à journée totale, ou assimilé à la journée, donc s'il y a manque de cotes, l'étudiant ne reprend que les examens auxquels il a reçu moins de 50%. Donc à partir de 10 sur 20, l'étudiant ne reprend plus cet examen-là.
Et ça vous arrange ou par rapport à l'ancien règlement?
Bon, moi personnellement, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Dans ce sens que si on faisait ça, nous, comme étudiants, nous n'aurons plus le courage de beaucoup étudier. C'est-à-dire, quand je sais que les cours auxquels j'ai réussi, je ne vais plus reprendre ça. Et on voit même les étudiants qui baissent les bras pendant l'année, qui vont s'absenter comme ils veulent.
J'ai quelque chose de 57%, mais je suis ajourné.
Vous avez combien d'échecs?
J'ai trois échecs.
Dans quel cours?
J'ai échec en mathématiques, en psychologie, en psychopédia et en IAS.
Des échecs légers ou graves?
Oui, ils sont graves.
Dans ce cas, vous reprenez ou vous passez les classes?
Je reprends tout, je reprends cet examen.
Seulement ces examens-là où vous reprenez l'ensemble des matières.
Bon, comme je suis au-delà de 50%, donc j'ai quelque chose de 57, alors je dois reprendre juste les examens où j'ai... D'après le nouveau règlement, celui du ministre, c'est que même ceux qui sont en dessous de 50%, ils ne reprennent que les examens où ils ont eu moins de la moitié.
Donc là, c'était les réactions des étudiants. Certains sont plutôt contents, d'autres non. Hein. Ils n'apprécient pas tellement cette innovation. Est-ce qu'il y a d'autres innovations dans ce nouveau règlement académique?
Bien, une autre nouveauté, c'est qu'on ne parlera plus d'étudiants refusés. Longtemps, on a longtemps entendu parler, tel étudiant a été refusé, tel autre refusé. Alors, il y a un changement d'appellation. On parlera plutôt d'étudiants non admissibles dans la même filière d'études.
Ok, autrement dit, il peut changer de filière.
Oui, il peut aller dans une autre filière, mais il ne va pas reprendre les études dans la filière où il a échoué.
Voilà. C'est quand même intéressant pour ces étudiants qui sont refusés souvent chaque année dans les universités. Hein. C'était difficile pour eux quand même.
Mais vous savez, c'est juste un changement de terminologie, mais...
Je ne sais pas si les étudiants sont d'accord avec vous, je dis qu'à chaque
fois. On rassemble beaucoup plus avec
vous. Oui, certainement. Alors j'invite vous tous qui nous suivez partout en République démocratique du Congo, chers étudiants, c'est l'occasion pour vous de réagir en appelant au 081 890 63 94. Merci beaucoup, je dis Kachama, pour toutes ces informations. Pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée. Voilà, à présent on retrouve notre invité, il était déjà avec nous dans ce studio, il a eu l'occasion, le temps de suivre vraiment en long et en large tout ce qui a été dit avec Jeudi, parce qu'il a eu à nous faire le point tout à l'heure sur cette question concernant le nouveau règlement académique. Professeur Sesep est secrétaire à la commission permanente des études au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
C'est vraiment un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois dans ce studio afin que vous puissiez nous éclaircir sur ce nouveau règlement académique. Première question, professeur, qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui l'enseignement, je dirais le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à carrément innover avec ce nouveau règlement académique?
Oui, merci madame pour votre question.
Vous parlez devant le micro s'il vous plaît, professeur.
Oui, merci. Je voudrais d'abord souligner un fait. Vous savez, dans le processus éducatif, l'évaluation constitue l'un des moments les plus déterminants et les plus cruciaux. Et dans notre pays, cette évaluation se fait surtout dans des conditions éprouvantes. Peut-être même que le terme épreuve y est pour quelque chose, en fait.
Peut-être.
Peut-être.
Oui. Mais,
alors, et puis, nous avons constaté depuis un certain temps que dans les établissements, il y avait des pratiques, des situations qui n'étaient pas de nature à favoriser des évaluations objectives et justes. Mmh. Alors, il fallait mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Et aider les membres du jury, c'est-à-dire l'ensemble des évaluateurs, à prendre des décisions qui reflètent l'objectivité souhaitée par le processus. Alors, pour prendre ces décisions, je dois préciser, il y a des décisions, par exemple, individuelles que chaque professeur prend dans le cadre de son enseignement, de son examen.
Oui.
Mais il y a aussi des décisions collectives. Par exemple, pour passer d'année, cela ne dépend pas d'un professeur. Un seul évaluateur ne peut pas s'opposer à la réussite d'un étudiant ou autoriser cette réussite.
Oui.
C'est l'ensemble du groupe. Donc, de tous ceux qui ont enseigné dans une promotion, qui doit décider de la réussite. Et pour faciliter la prise de cette décision, il faut un instrument. Cet instrument, c'est ce que nous appelons
le règlement académique,
le règlement des examens. Et dans ces règlements, il y a encore quelque chose de plus précis, ce sont les critères. Ces critères, évidemment, je dis, ne remplacent pas la liberté d'un jury. Le jury se sert de ça comme instrument pour orienter sa décision.
Avant, il n'y avait pas d'instrument pour le jury.
Si, il y en avait, mais nous avons, pendant les 10 dernières années, avec tout ce que nous avons eu comme problème politique, par exemple, il y a des établissements entiers qui échappaient à l'autorité centrale, par exemple, et qui avaient instauré des règlements qui n'étaient pas tout à fait, disons, ceux qui était pratiqué, par exemple, au niveau de Kinshasa. Et de toutes les façons, le ministère part du principe que l'enseignement est national. Le programme est national.
C'est bien de le préciser parce qu'il y a un auditeur qui a réagi. Oui. Hein, c'est Jean-René, il a réagi depuis Kananga.
Oui.
Il dit, est-ce que cette innovation est purement congolaise ou cela se fait dans tout le pays? Donc je crois qu'il voulait dire, est-ce que ça concerne uniquement Kinshasa ou ça, oui. ça concerne tout le pays?
C'est ça, oui. J'ai dit l'enseignement est national, l'enseignement supérieur, ou comme l'enseignement primaire et secondaire d'ailleurs, l'enseignement est national. Et les programmes que nous appliquons sont des programmes nationaux.
Ça concerne tout le pays.
Ça concerne tous les pays.
Oui.
Et il était tout à fait logique qu'on ait un instrument qui aide l'ensemble de notre système éducatif à évaluer un enseignement, donc des critères qui s'appliquent à l'ensemble du pays.
C'est bien d'avoir un nouveau règlement académique.
Oui.
Parce que bon, nouveau, je ne sais pas si les auditeurs sont d'accord, surtout les étudiants, ils ont l'impression que ça... Je suis sûr, parmi eux, il y en aura qui diront que ça n'a rien de nouveau, ça a toujours existé.
Oui, mais ça a toujours existé, oui. Sans vous interrompre. Mm. Nous avions 27 textes qui régissaient les évaluations, les examens, les interrogations dans notre système.
Mm.
Le ministère a ramené ces 27 textes à un seul, de 100 articles. C'est déjà un effort.
Mm.
Au lieu de s'éparpiller dans une diversité de textes que les étudiants maîtrisaient très mal,
oui.
que beaucoup de professeurs et même l'autorité académique maîtrisaient très mal, on a essayé d'harmoniser ces textes en tenant compte de l'évolution de notre système.
Et ces textes
en tenant compte aussi des pratiques, ils sont déjà appliqués.
Déjà pour cette année?
Oui, oui, déjà pour cette année, à la première session.
Partout dans le pays?
Là où, en tout cas, ils ont eu accès à ces textes, puisque le ministre a organisé à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe une cérémonie de remise officielle de ces textes à l'ensemble
des chefs d'établissement. Ça fait ici à Kinshasa.
Il y avait même des chefs d'établissement de l'intérieur du pays, enfin des provinces.
Mm.
Par exemple, à l'université de Lubumbashi, ces critères ont été appliqués à la première session.
Ok, mais ailleurs au Congo...
À Kinshasa aussi, ils ont été à appliquer.
Je ne sais pas si les étudiants seront d'accord, surtout les étudiants qui nous suivent.
Il y a peut-être des coins où ils n'ont pas pu les avoir à temps, mais en tout cas, ces critères sont d'application à partir de la première session de l'année académique 2004-2005.
C'est bien de préciser cela, professeur Cécep.
Oui.
Mais nous savons que, bon, dans l'ensemble, hein, parce que je retiens par exemple ce que Jody nous a dit tout à l'heure, il dit un établissement doit organiser au moins deux interrogations au cours de l'année académique.
Ça a toujours été le cas.
Dans la pratique,
les gens ne le font pas. Oui.
Oui.
Nous n'avons pas dit que le ministre a tout chambardé, si vous me permettez. Non. On a essayé d'améliorer les points qui posaient problème.
Mm.
Et quels sont les points qui posaient problème?
Allez-y.
Hein, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure des innovations.
Oui.
La première chose.
Les matières de formation professionnelle, par exemple?
Par exemple, oui, cette répartition des matières en trois catégories.
Mm.
C'est une innovation en ce sens que, dans les anciens critères, on tenait compte du nombre de matières par année d'études.
Oui.
Par exemple, ceux qui avaient 5 matières n'avaient pas les mêmes critères de délibération que ceux qui en avaient 10.
Et maintenant, qu'est-ce qui change?
15. Maintenant, tout le monde, on ne tient plus compte du nombre de matières, on répartit les matières selon leur influence, leur poids dans la formation professionnelle.
Mm-hmm.
C'est ainsi que nous avons donc ces trois catégories. La première, matière de formation professionnelle, matière d'appui à la formation professionnelle, et puis des matières générales qui se retrouvent en fait dans l'ensemble du système.
Mm-hmm. Alors, nous avons retenu tout à l'heure avec Jody que pour les cours de formation professionnelle, le règlement prévoit qu'aucun étudiant ne peut passer de classe avec un échec
effectivement,
grave.
Effectivement, nos étudiants doivent être conscients du fait que même s'ils ont 80%, même si quelqu'un a 80%, même s'il a 75%, dans la mesure où il a un échec grave, par exemple, il a 4 sur 20 dans une matière, il ne passe pas automatiquement.
Mais il y a quand même le système de péréquation qui peut le sauver.
Oui, donc il faut retenir ce système.
Oui.
Il y a d'abord des situations où l'étudiant passe sans problème.
Mm.
C'est-à-dire celui qui a au moins 50% dans chaque branche. Parce qu'en principe, il faut passer des classes sans échec.
Oui.
C'est ça le principe.
C'est vrai.
Passer des classes sans échec. Si vous avez 50% au moins dans chaque danse, vous passez sans problème.
Oui. Mais pour les étudiants...
De sorte qu'à l'université, chez nous, vous pouvez avoir 55% passé parce que vous n'avez pas d'échec, mais celui qui a 80% ne passe pas.
Oui, c'est vrai, mais il y a tout de même un élément important qu'a relevé Jody, le système de péréquation pour celui qui a 80% et qui a un échec grave.
Pourquoi le ministère l'a instauré? C'est tout simplement parce que vous savez, il y avait ce qu'on appelait les il y avait une certaine des situations arbitraires où qu'un professeur pouvait se dire, moi j'ajoute des points à tel étudiant, n'est-ce pas, ou un jury, pour qu'il passe. On a dit non, on peut tout juste, ces points-là qu'on ajoute, ça vient d'où?
Des autres cours.
Non, ça, non, avant ça ne venait pas d'autres cours. On décidait, par exemple, non, pour faire passer tel étudiant, étant donné son profil général,
il travaille bien, on peut le sauver.
Le jury décide souverainement. On a dit non, ça c'est la porte ouverte à des situations incontrôlables.
Oui. Aujourd'hui, les choses changent.
Oui, on regarde dans sa grille et on constate par exemple que il a le cours dans un cours de même catégorie, deuxième élément, des mêmes coefficients de pondération. Vous n'avez pas insisté sur cet élément.
Oui.
Ah, parce que les cours sont affectés d'un coefficient de pondération.
Tout à fait.
Donc, il faut les deux critères. À ce moment-là, puisque c'est la même catégorie, c'est les mêmes coefficients, on peut prélever deux points maximum. Et une seule fois pour alléger l'échec. Mais il y a une autre clé qu'on a prévue.
Oui.
Si, par exemple, un étudiant a 75%, il a 2 sur 20 dans une matière. Vous lui ajoutez 2 points, ça vous fait 4 sur 20. Donc, le problème n'est pas résolu.
Pas totalement.
Il est toujours ajourné. Dans ces conditions-là, le ministère prévoit qu'on peut procéder à une réévaluation. On peut réinterroger. Le jury peut décider souverainement. Au lieu que l'étudiant, par exemple, revienne à la seconde session, le jury peut décider qu'on organise...
Un autre examen?
On organise, oui, c'est possible.
Pour cet étudiant-là seulement?
Pour lui seulement, pour s'assurer que l'échec n'est pas dû à des situations. Peut-être que c'était un jour, il avait des problèmes de...
Mais il y a un danger à cela, professeur, s'il échoue à nouveau.
Non. Ah oui, c'est l'échoue, donc on est confirmé.
Alors, il va reprendre l'année avec 70%?
On lui donne le plus de chances possible. Mais oui, mais puisqu'il ne remplit pas les critères pour passer.
Vous avez suivi tout à l'heure les réactions de certains de vos confrères. Hein. Vous avez reconnu certainement le professeur Kamba et Gotcha, et vous avez retenu que qu'il n'approuve pas tellement ce nouveau règlement. Hein.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je sais aussi que...
Et ses arguments sont tout de même fondés. Hein.
Mais, le professeur Kamba gère en fait le secteur académique au niveau de l'Institut, plutôt de l'Université pédagogique nationale. Le problème, c'est quoi? Nous partons du principe que tout étudiant qui a obtenu au moins 50% passe des classes.
Oui.
N'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc, s'il a au moins 50% partout, il passe des classes. Alors, il se fait qu'avant, il y avait ce que les étudiants appelaient des dispenses officieuses. Il pouvait demander à un professeur, par exemple, de le dispenser à la deuxième session, de représenter à la deuxième session, une matière dans laquelle il avait obtenu au moins 10, parce que la barre était fixée.
Tout à fait.
Nous disons qu'il ne faut plus offrir à tous ces messieurs, à toutes ces dames, cette occasion-là, pour négocier ce genre de situation. Alors, on tranche. Dès que vous avez 10, vous êtes dispensé.
Oui.
Et même, c'est une évolution, d'ailleurs, plus tard vers le système de crédit. Peut-être qu'avec le temps, nous y arriverons.
D'accord.
Là où vous réussissez, vous avez ça à votre avantage.
Professeur, c'est on va évoluer parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent dans ce studio, et notamment la question de Mbaki, qui nous a appelé depuis Kinshasa.
Oui.
Suivez bien sa question. Il dit, si un étudiant qui a moins de 50% veut améliorer ses cotes pour distinguer, peut-il être autorisé à reprendre certains examens? À cette allure, il sera difficile de distinguer si on doit garder les cotes de la première session.
Non, on n'offre pas cette possibilité-là.
Oui.
La possibilité qu'on lui offre, c'est, déjà, à partir du moment où il a 40%, on lui dit, il ne représente pas les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu 10. C'est une règle qui s'applique à tout le monde.
D'accord, vous lui avez répondu. Oui. Il y a aussi Clovis Singa qui est appelé depuis Kinshasa, de l'UNIKIN. Il est en première licence droit.
Oui.
Il précise qu'en modifiant le règlement, vous pensez qu'il n'y aura pas d'antivaleur, autrement dit corruption et autres. Le ministre aurait pu voir les problèmes fondamentaux, notamment le problème de la bourse, du transport et du logement, dit-il.
Bien entendu. Les évaluations comme les enseignements se déroulent dans des conditions bien déterminées.
Le ministre pense également à voir
dans
ces autres problèmes.
Dans quelle mesure ces conditions-là influent sur les décisions que l'on prend? Ça, c'est une grande question.
Oui.
Il fait l'objet de débats dans les
cadres. D'accord. Donc, vous ne voulez pas répondre là-dessus, hein?
Non, ça, ce sont des éléments. Je crois que le ministère est là pour essayer de trouver des solutions à ce genre de problème.
Certainement. Naseg a appelé depuis Lubumbashi. Il dit, quelles sont les sanctions de la tricherie? Parce qu'à Lubumbashi, on doit perdre toute une année quand on a triché. Est-ce que ça entre dans le nouveau règlement aussi?
Dans le nouveau règlement, il y a tout un chapitre, toute une section sur les fraudes.
Mm-hmm.
Parce que là aussi...
Il faudrait que ce nouveau règlement soit distribué aux étudiants.
Il sera mis à la disposition des étudiants. Je crois qu'on est en train d'élaborer un guide de l'étudiant.
Mm-hmm.
On va mettre le nouveau règlement là-dedans. Et puis, il est demandé toujours qu'à l'occasion de la session, des sessions d'examen, on affiche le règlement. Mais nos étudiants n'ont pas le temps de lire. Ils ne se donnent, quand même bien même vous affichez, ils ne lisent pas. Il faut bien qu'ils prennent
l'habitude. Je ne sais pas si les étudiants sont d'accord avec vous.
Depuis 32 ans, je suis en contact avec eux.
Mm-hmm.
Je sais que très peu se donnent la peine de lire. Hein, je suis leur sujet de conversation à l'université.
Hein, oui.
Oui.
Ok.
C'est ça.
Ça, c'est votre point de vue. Un dernier étudiant a réagi depuis Bukavu. Il dit, nous étudiants, nous ne sommes pas des génies.
Oui.
Pourquoi les changements sont consultation? Pourquoi on ne les a pas consultés avant d'innover? Et il précise, et si j'ai trois échecs, que ferais-je?
S'il a trois échecs, ça dépend. Si c'est trois échecs légers, s'il a au moins 60%, il passe. Mais s'il a moins de 60%, il tombe dans le coup de ceux qui doivent reprendre.
C'est compliqué tout ça. Hein.
Ce n'est pas compliqué. C'est mieux qu'on...
Oui, cette fois, ça sera beaucoup plus en pratique.
Oui,
et puis, on termine avec Bopé, qui a appelé depuis Kananga. Il dit, quel est le sort de l'étudiant qui a fait 70% et avec 2 et 3 points sur 20 dans des cours de grande pondération?
Oui, dans ce cas-là, je dis, on applique d'abord la péréquation.
Oui.
Si ça ne marche pas, l'étudiant reprend. Il reprend les examens.
Mm.
Oui, il reprend les examens.
Le système de péréquation est quand même un système dangereux, hein, parce que ça n'augmente pas tellement les points de l'étudiant.
Non. Le principe, c'est que personne ne passe de classe avec un échec grave. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'en termes de maîtrise des apprentissages, un échec...
C'est vrai, vous avez raison, mais Dieu seul sait si les étudiants vont approuver ce nouveau règlement.
Madame, rassurez-vous,
il
est prévu une campagne de vulgarisation de ce règlement.
Oui.
Et ce règlement est même fait à l'avantage des étudiants, parce que beaucoup de professeurs d'ailleurs estiment que, par exemple, ramener la barre, le seuil pour la réussite à 10, c'est un peu faire la part trop belle aux étudiants.
Mm-hmm.
Mais nous disons, de toutes les façons, il faut essayer d'encourager ces jeunes à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas aller en dessous de ça.
En tout cas, merci beaucoup, professeur Sessep, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la commission permanente des études au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire.
Merci, madame, de m'avoir donné l'occasion de donner toutes ces précisions.
Et à la prochaine.
Okapi Action. Des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h avec Nicole Ngaka.